écoulée.
Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Vous êtes dans Bienfait pour vous, nous sommes en direct avec vous pendant une heure jusqu'à midi et ce matin avec toute l'équipe, on a décidé de s'attaquer à un sujet évident, je dirais même apparent, n'est-ce pas Mélanie?
Oui, on va se consacrer aujourd'hui à notre peau. À la fin de l'été et donc à cette période, a priori on dit au revoir à notre bronzage estival. Notre peau fait parfois grise mine, là déjà fin septembre, eh bien nous avons des solutions à proposer dans cette émission. Gommage, vitamine C, hydratation, ou même les huiles essentielles, la phytothérapie. On va vous donner quelques astuces imparables grâce à nos invités. Nous recevrons aujourd'hui Dermatodré, elle est médecin dermatologue et propose de nombreuses vidéos d'informations sur les réseaux sociaux. Et puis Françoise Couic-Marinier, docteur en pharmacie, aromathérapeute, sera également avec nous en studio.
Et après cela, 11h45, ce sera le quart d'heure de nos bienfaitrices du jour avec Sophie Braffman. On ira voir du côté des solutions digitales, des outils 2.0 qui nous veulent du bien. Aujourd'hui, elle a sélectionné des applis qui facilitent véritablement la vie de famille. Et puis à l'approche de midi, on va rejoindre également Philippine Darblay qui va nous proposer un coup de projecteur sur des sandwichs vraiment très en vogue en ce moment, les sandwichs tunisiens. Ce serait, on dit que ce serait les nouveaux kebabs. En tout cas, ils font un tabac et Philippine nous expliquera pourquoi.
Europe 1.
Vous écoutez Bienfait pour vous sur Europe 1. On vous accompagne avec un grand plaisir tous les matins jusqu'à midi. Et comme tous les jours, on va démarrer cette émission par l'éclairage amusé et amusant de notre cher Clément Lanoux. Bon, lui, à mon avis, n'a jamais eu le moindre bouton. On va voir ça avec lui. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Détrompez-vous, j'ai eu un bouton adolescent. Et quelle histoire, je vais vous la raconter. C'est vrai que bouton, c'est un petit nom si mignon. On n'imagine pas un petit mot qui ressemble à bonbon être finalement la plus grande source de nos angoisses adolescentes. On les déteste, on les craint, mais si on apprenait à les aimer, si on leur donnait un petit nom, par exemple, je ne sais pas, moi Jean-Marc, aujourd'hui, je vous expliquais comment un bouton a changé une partie de mon existence. Nous sommes le 13 mai 98 dans un petit village de Vendée. La soirée la plus attendue du mois arrivait, la célèbre disco du Boupère. Platine 85 avait déjà installé ses sonos. Les jeux de lumière étaient là, le village était prêt. Les fûts panachés allaient couler à flot. On allait s'enjailler sur des sons comme cette soirée-là. En haut,
en bas,
à gauche,
à droite.
Ouais, je vois qu'on a le même âge, Mélanie. Voilà. Et puis le grand jour arriva, 20h30, ça y est. Le petit Clément, adolescent, se préparait. J'avais repassé mon t-shirt Nirvana. J'avais fait le plein de mon 103 RCX. J'avais vidé mon parfum du FC Nantes dans la nuque au cas où. Et puis le drame arriva. Qu'est-ce que j'aperçus ? Un Jean-Marc. Un petit bouton, là, si près de la bouche. Pris de panique, je me dis que faire ? Aller à cette soirée, annuler cette soirée. Surtout qu'il se murmurait que la belle Émilie m'attendait et que c'était ce soir-là où peut-être j'allais enfin réussir ce projet, comme je l'appelais depuis tant d'années. Et puis j'ai hésité, et puis j'ai téléphoné à Émilie, enfin sur le fixe de ses parents, parce qu'à l'époque on n'avait pas de portable, mais Émilie était déjà partie. Je ne pouvais pas. Elle allait se sentir abandonnée. Je renonçais à la disco du beau-père. Je ne draguerai jamais Émilie, et je laissais filer ma chance, puisqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, et c'est seulement le lundi matin que j'apprenais que la belle Émilie sortait depuis ce samedi soir à la disco du beau-père, avec Simon Charpentier. Aujourd'hui, ils sont en couple, ils ont deux enfants. Donc, quand on se dit un bouton, ça sert à rien, c'est faux. Regardez à quoi ça sert un bouton. Peut-être à créer des belles histoires d'amour, des couples, faire des familles, repeupler le monde. Donc, je remercierai jamais assez pour eux ce petit bouton du 13 mai 97.
Merci beaucoup, Clément. On va à présent donner la parole à nos expertes du jour. D'abord, vous, Dermatodré, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes médecin dermatologue, comme votre pseudo l'indique. Vous êtes aussi l'auteur, l'autrice du livre « Faire la paix avec... » Oui, j'ai le bon livre dans les mains, je vérifie, parce que parfois, je prends le deuxième bouquin. Faire la paix avec sa peau qui est paru donc chez Larousse. Avec nous aujourd'hui le docteur Françoise Couic-Marinier. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes docteur en pharmacie, aromathérapeute et votre dernier livre, c'est Se soigner avec les hydrolats aux éditions Terre Vivante. Docteur Dré, après l'été et donc les grandes vacances, on a souvent, alors moi j'aime arriver, mais Julia régulièrement,
n'importe quoi.
A souvent une poussée de boutons à la rentrée. À quoi est-ce que c'est dû précisément cette émergence là comme ça tout d'un coup au mois de septembre? Le soleil, il a vraiment un effet anti-bouton?
En fait,
fait, il y a un effet rebond à l'automne parce que le soleil aura favorisé la formation des boutons pendant l'été, mais qui ne seront pas sortis tout de suite. Ah. Le soleil augmente la sécrétion de sébum et épaissit l'épiderme pour mieux se protéger contre les UV. La conséquence, c'est que ce sont les deux ingrédients de la recette miracle pour fabriquer des boutons. Donc, quand on débronze à la rentrée, que la peau se désépaissit petit à petit, les boutons qui étaient en préparation à l'intérieur peuvent tout à fait sortir.
Et parfois, ils sont même plus gros qu'avant le bronzage. C'est-à-dire qu'on peut avoir des boutons, je ne sais pas, en avril-mai, ils partent un peu pendant l'été. Et ceux qui surgissent là en septembre, ils sont parfois plus gros que ceux d'avril. Hein.
Oui, parce qu'ils sont restés plus profonds sous la peau qui était épaissie. Alors, quand ils sortent, on a un vrai effet rebond à la rentrée.
Alors, docteur Quick Marinier, vous êtes aromathérapeute. Vous utilisez donc beaucoup les huiles essentielles. On a déjà parlé avec vous du pouvoir des odeurs sur notre état de santé. Mais les huiles essentielles, on peut aussi les appliquer sur la peau et c'est même parfois plus efficace. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ?
Effectivement, les huiles essentielles ont une affinité pour le gras de la peau. On va en général les diluer pour éviter toute allergie, toute irritation aussi. Et puis elles vont pénétrer petit à petit. Donc ça peut même être une petite réserve lorsqu'on a du gras sous la peau. Oui, il y en a de toute façon. Et ça va nous permettre de la nourrir, de la régénérer et notamment plutôt des soins du soir.
Les soins du... Alors, quelle zone précisément il faut les mettre où, les huiles essentielles?
Alors, tout dépend si on veut faire de la cosmétique, si on veut effectivement lutter contre les rides ou les taches.
Par exemple.
Donc là, on sera plutôt au niveau du visage, au niveau des mains, sur les zones plutôt exposées. Et puis après, on a des zones où la peau est beaucoup plus fine. Ça, ce sera plus de la thérapeutique si on veut effectivement faire pénétrer nos huiles essentielles rapidement, même si elles sont diluées dans des huiles végétales. Ce sera notamment ici au niveau des poignets. Ça peut être la plante des pieds aussi, au niveau du plexus solaire, et puis on évitera certaines zones.
Alors, lesquelles, justement,
voilà, j'allais dire. En revanche, il faut quand même rappeler qu'il y a des zones à éviter, par contre. Hein.
Exactement. Alors, sur les grands allergiques, on évitera de toute façon les huiles essentielles. Hein, ça, c'est la première
chose.
Hein,
tout court.
Tout court. Ou les gens qui font n'importe quoi, c'est extrêmement concentré, une huile essentielle. Donc, là aussi, on ne prend pas tout un flacon pour mettre notamment sur son visage. Hein, c'est extrêmement dilué. En tout cas, il faut les diluer. On évitera les muqueuses, notamment les yeux, hein, puisque c'est très aqueux. Une huile essentielle ne se solubilise pas dans l'eau, donc ça va très fortement irriter. Ça va être toutes les muqueuses buccales, nasales, où là, ce sera très dilué, éventuellement gynécologique aussi. On fera très
attention. Audrey, on l'a compris, après le bronzage, on a souvent une petite poussée, voire une grosse poussée de boutons. Comment ça se forme un bouton? C'est parce que quoi? La peau, elle est trop grasse?
Effectivement, la sécrétion de sébum est importante en quantité, mais aussi en qualité. C'est-à-dire que la composition du sébum est différente chez les personnes qui sont sujettes à l'acné. Donc ça, c'est pour la partie glande qui fabrique le sébum. Mais le deuxième point important, c'est l'épiderme qui se trouve par-dessus au niveau de l'orifice du pore, qui a tendance à s'épaissir. Et donc, des petits morceaux de peau morte se déposent à l'intérieur du trou du pore et ça bouche le pore. Donc, la glande continue à fabriquer en dessous. Elle forme une petite poche. C'est ce qu'on appelle un microkyste. Et c'est ça, le point de départ de l'acné. Il y a toujours un petit microkyste au départ qui peut soit vraiment se dilater, ça devient un point noir.
J'allais vous dire, un point noir, c'est un bouton ou pas alors?
Oui, un point noir, c'est une forme de bouton. C'est ce qu'on appelle de l'acné rétentionnel. En fait, il y a deux types d'acné. Il y a l'acné rétentionnel, les points noirs et les microkystes, et l'acné inflammatoire. Souvent, on a un peu des deux. Hein. On a un peu des microkystes et des boutons qui sont rouges. L'acné inflammatoire, ce sont les boutons rouges un peu gonflés, qu'on sent souvent sensibles sous le doigt, ils sont un peu douloureux. Et puis les boutons purulents qui contiennent du blanc dedans.
À l'adolescence, on a quoi plutôt les deux?
On peut avoir déjà un peu tout.
La majorité des acnés sont mixtes, rétentionnels et inflammatoires. Il y a certaines personnes qui ont que l'un ou que l'autre.
Il faut les retirer ou pas les points noirs?
Alors, il faut pas.
Moi, je vous les retire si vous voulez, j'adore ça.
Ah oui, vous aimez bien?
C'est très satisfaisant à regarder.
Ah, pour moi, je regarde même des vidéos, j'ai honte, hein, mais j'adore.
J'adore ça aussi.
Moi, j'ai entendu dire qu'il fallait les garder parfois, ces points noirs.
Alors, en fait, ça dépend comment est-ce qu'on les évacue. Effectivement, si on fait ça tout seul avec ses doigts devant son miroir, souvent, on se charcute et on fait des cicatrices, on augmente le risque d'infection. Après, on peut faire des nettoyages de peau professionnels avec des petits outils, on essaye d'enlever le contenu des points noirs.
Mais l'esthéticienne, elle y va hein, sur les points noirs à l'appui.
Il ne faut pas trop se charcuter. Il vaut mieux avoir des outils pour les vider sans faire de plaies au niveau du pore.
Voilà.
Mais en fait, quand on vide un point noir, il va se remplir dès le lendemain. Il faut surtout mettre en place des traitements qui vont éviter qu'il se reconstitue.
Et on va y venir, bien sûr, au traitement. Vous ne bougez pas, on vous distribue ce matin de bonnes infos et surtout des tas de conseils pour prendre soin de votre peau en cette rentrée, particulièrement pour éviter et soigner les boutons à tous les âges de la vie. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Comme les Brigitte, en fait.
On va sauver notre peau ce matin, Mélanie Gomez, surtout la vôtre. Vous écoutez Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. C'est tous les matins sur Europe 1 de 11h à midi. Et aujourd'hui, on vous propose une émission anti-boutons. On fait la paix avec notre peau grâce à nos deux spécialistes, dermatodré, médecin dermatologue. Vous avez déjà dû voir ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis, Françoise Couic-Marinier est également avec nous, docteur en pharmacie et aromathérapeute. Alors, docteur Dré, le premier geste pour prendre soin de sa peau, éviter justement d'avoir des boutons d'acné, c'est ce qu'on met dans notre assiette. Qu'est-ce qu'on doit privilégier ou au contraire bannir de nos repas ?
Alors, les aliments que traditionnellement on dit d'éviter, c'est le chocolat, le saucisson quand on a des boutons. Mais en fait, c'est pas exactement ça qui va favoriser les boutons. Maintenant, on se rend compte que c'est plutôt les sucres rapides. Donc, dans les produits au chocolat, effectivement, c'est toujours sucré. Les sucres rapides, ça va agir sur notre glycémie, le taux de sucre dans le sang, et déclencher toute une cascade de réactions, de facteurs de croissance qui vont aller stimuler les glandes qui fabriquent le sébum et qui épaississent la peau, et aussi de réactions inflammatoires. On sait que le sucre, c'est un agent pro-inflammatoire.
Donc le sucre déclenche à la fois des boutons et de la cellulite. Continuez à en manger, c'est vraiment trop sympa.
Moi, c'est étonnant parce qu'avec tout le sucre que je mange, j'ai pourtant pas de boutons, donc c'est pas chez tout le monde.
On est tous différents vis-à-vis de l'acné. Effectivement, il y a des prédispositions génétiques. Si vos deux parents ont eu de l'acné, vous avez plus de risques d'en avoir. Et globalement, si vous êtes plutôt un terrain de peau sèche, vous êtes à l'eczéma, donc un terrain atopique, dans ce cas-là, vous avez moins de risques d'avoir de l'acné.
Bon, en tout cas, je crois que vous dites, vous, aux fumeurs, et ça c'est prouvé, qu'il est bien sûr temps d'arrêter le tabac, c'est pour leur santé en général, mais aussi pour le bien de leur peau. Fumer, ça donne vraiment plus de boutons, ou c'est encore une raison qu'ont trouvé les dermatos pour nous pousser à arrêter ?
Alors, ce qu'on voit vraiment en consultation, c'est que les personnes qui fument ont des acnés qui sont plus sévères, avec beaucoup de cicatrices surtout. Et puis, on le voit sur le teint d'une personne qui fume, le teint est plus irrégulier, un peu jaunâtre, l'épiderme est épaissi. Donc oui, on a vraiment intérêt à arrêter.
Pourquoi cicatrices
Merci. Pourquoi la cigarette j'ai la même question que vous, Mélanie. Pourquoi la cigarette empêche de cicatriser ?
En fait, la nicotine a un effet vasoconstricteur, donc va diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins. Et la peau, pour cicatriser, pour se renouveler, elle a besoin d'un bon apport sanguin. Et donc, c'est connu pour tous les organes que la nicotine, et donc le tabac, gêne la cicatrisation. Donc, typiquement, quand vous devez avoir une chirurgie, par exemple, une chirurgie plastique, une chirurgie orthopédique, le chirurgien vous demande toujours d'arrêter de fumer dès que possible et de ne pas fumer pendant les semaines ou voire les mois qui suivent l'intervention.
C'est pas pour nous embêter, c'est bon pour la peau et pour tout en général. Pitié, essayez d'arrêter de fumer. L'acné, on pense que c'est une maladie d'adolescence. Bien sûr, il y a beaucoup d'adolescents qui vont en avoir, mais on peut en avoir aussi à l'âge adulte. C'est vraiment si fréquent que ça ? Est-ce qu'on a des chiffres de fréquence de la maladie, justement ?
Oui, l'acné, ça va toucher 80% des gens au cours de leur vie, soit l'adolescence et ou plus tard. Pour les adultes, on sait que ça touche entre 20 et 40% des femmes, parce que c'est plus fréquent chez les femmes à l'âge
adulte. Pourquoi ? C'est hormonal ?
Oui, pour les femmes, le cycle hormonal fait que notre quantité d'hormones varie chaque jour au cours du mois. Et donc, notre peau subit un peu des à-coups d'hormones, surtout dans la phase qui est classiquement la semaine avant les règles. On se trouve avec une balance hormonale qui est plutôt en faveur de l'acné, parce qu'on a plus de progestérone et moins d'oestrogène. Et la progestérone, elle se comporte un peu comme de la testostérone au niveau de la peau, et elle va stimuler les glandes thyroïdes, le sébum.
Et quand on approche de la ménopause, on risque d'avoir plus de boutons aussi, du coup ?
Alors, en général, la ménopause a plutôt tendance à assécher la peau.
Ah, bon, vous avez la peau sèche, hein, je trouve. D'ailleurs, en ce moment,
j'ai encore un peu le temps de moment, mais c'est intéressant, les fluctuations hormonales, il faut faire attention. Alors justement, Françoise, vous avez une petite huile essentielle pour aider, je crois, à notre équilibre hormonal.
Écoutez bien, Julia, notez.
Ah, ça va. Alors, notez bien, c'est l'huile essentielle de Saugeuse Clarée, qui va par contre, puisqu'elle est œstrogène-like, être contre-indiquée chez les personnes qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancer hormonodépendant en sein, ovaire par exemple. Donc on peut éventuellement l'avaler 2 gouttes par jour, on fait des pauses 5 jours sur 7 pendant une petite période, ou ça peut être aussi juste avant le cycle où on va avoir cette déplétion d'œstrogène et puis cette montée de progestérone. Et puis on peut penser aussi aux eaux distillées, une eau distillée de sauge par exemple. Toutes les huiles essentielles distillées ont une eau qui leur correspond. Et en plus, c'est un tenseur de la peau, cette eau de sauge.
Donc on peut se pulvériser comme ça le visage plusieurs fois par jour.
Qu'est-ce que vous... Voilà, après le démaquillage, par exemple, c'est très utilisé par la cosmétique actuellement.
Ah, ça sent bon, la sauge, en eau florale, comme ça, ouais.
On va la mélanger avec d'autres.
Parce que moi, je la mange en général. Mais... François, justement, pour l'acné, là, on parlait donc de comment s'équilibrer hormonalement grâce à l'arbre à thé, notamment.
La sauge, pardon,
oui, je me confonds, excusez-moi. Pour l'acné, est-ce qu'on peut utiliser certaines huiles essentielles? Là, c'est là que j'en viens, à l'arbre à thé, justement. Mais rien à voir avec le thé, hein. C'est quoi l'arbre à thé?
Voilà, les gens confondent arbre à thé parce que ça vient de tea tree, ça a été découvert par le capitaine Cook en Australie, qui s'est dit « Oh, je vais faire du thé avec ça », enfin en anglais. Il s'est complètement trompé, donc ça sent pas forcément très bon non plus. Mais l'arbre à thé est un grand anti-infectieux, donc on sera plus sur un acné infectieux. On va justement agir là-dessus. Alors on peut le diluer, le mettre dans des crèmes. On a beaucoup de cosmétiques à base de ce mélaleuca alternifolia, mélaleuderme, etc. Donc ça peut être intéressant. Et puis on peut avoir des plantes un peu plus autochtones, pensons à l'écologie, puisque celle-ci est australienne, du romarin par exemple, des plantes qui vont aussi assainir la peau, toujours bien diluées et bien mélangées.
Alors, docteur Dré, contre l'acné, il existe des traitements locaux comme des crèmes à appliquer. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Qu'est-ce qu'il y a dedans d'ailleurs en première intention? Je crois que vous prescrivez plutôt des crèmes.
Alors oui, sur une acné légère, on va recommander des cosmétiques qui contiennent le plus souvent des hydroxyacides, c'est-à-dire des acides de fruits. Alors, on peut avoir de l'acide glycolique. Le plus fréquemment, on trouve de l'acide salicylique. C'est un produit qui va avoir plusieurs actions intéressantes dans l'acné, notamment un effet de peeling léger, donc désépaissir l'épiderme, puisqu'on a vu que cet épaississement de l'épiderme, c'était un des facteurs constitutifs des boutons. Et puis, il a aussi un effet anti-inflammatoire, parce que l'acide salicylique, c'est comme l'aspirine, hein, qu'on prend quand on a mal à la tête ou ce genre de choses. Donc, c'est un effet anti-inflammatoire qui va diminuer donc, les rougeurs des boutons.
D'accord. Ça, c'est là en première intention. Mais quand nos ados, par exemple, ont leur première poussée d'acné vers 13-14 ans, on traite tout de suite ou pas? Même si c'est 3-4 petits boutons, est-ce qu'on attend de voir ce que ça donne ou on y va?
On peut traiter tout de suite dans la mesure où il n'y a pas d'habituation de la peau, il n'y a pas de dépendance. Donc, on peut traiter en fonction de la gêne ressentie par
l'adolescent.
Voilà, si c'est effectivement, ça peut créer en plus des souffrances. Hein, donc, il ne faut pas hésiter. Françoise, en pharmacie, on vous demande souvent des comprimés à base de zinc. C'est un oligo-élément, le zinc, qu'on prend souvent notamment pour l'immunité, pour booster l'immunité. Il y a aussi un effet intéressant et des vertus pour la peau.
Il a défrayé la chronique pour le Covid, beaucoup de gens en ont pris. Effectivement, c'est un anti-inflammatoire, c'est une molécule, enfin un oligo-élément qui va être aussi cicatrisant et il augmente la synthèse de collagène. Donc on le connaît aussi pour éviter le vieillissement de la peau, mais on va avoir surtout cet effet anti-inflammatoire, comme tout à l'heure le docteur citait l'acide salicylique. Donc ça va être effectivement intéressant. On va donc améliorer la prévention des papules et des pustules de l'acné.
Ah d'accord. Et Françoise, pour celles et ceux qui ne tolèrent pas trop le zinc, il y a, je crois, un tas de compléments alimentaires qui sont disponibles en pharmacie pour justement faire diminuer son acné. Ce sont lesquels que vous nous conseillez de préférence?
Alors on peut trouver des plantes comme la bardane, la pensée sauvage, donc ça ce sera plutôt à prendre en gélule. C'est vraiment pour de l'acné très très léger. On a aussi des plantes anti-inflammatoires comme le curcuma, qu'on connaît plus les problèmes articulaires, hein, mais ce sera aussi très intéressant. Et puis au niveau plus alimentaire, où ça existe en gélule, la levure de bière, même si ça n'est pas reconnu par l'Europe, mais ce sera intéressant, ainsi que les probiotiques. On trouve même maintenant des marques de cosmétiques ou de maquillage à base de probiotiques, puisqu'on a sur notre corps des milliers, des millions de bactéries, de levures. On est finalement une symbiose, comme un champignon, un corail.
On est un gros champignon, merci. On reste ensemble. La chasse aux boutons est ouverte ce matin sur Europe 1. Saviez-vous que 80% des gens ont de l'acné? C'est fou ça, Mélanie, au cours de leur vie, surtout les ados, mais pas seulement. Heureusement, ici, on vous parle de toutes les solutions en fonction de votre situation. Pour en savoir plus, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous sur Europe 1, on est avec vous jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 11h30 et on se libère ensemble ce matin de l'acné, des boutons. C'est très fréquent d'avoir une poussée à cette période de l'année, mais grâce à nos invités, ce sera bientôt un lointain souvenir. Elles sont toujours avec nous, Dermatodré, médecin dermatologue, et Françoise Quick-Marinier, docteur en pharmacie et aromathérapeute. Alors tout à l'heure, on a parlé des premières crèmes qu'on peut prescrire pour assécher un peu la peau, désinfecter et faire partir ces premiers petits boutons. On a parlé également de l'intérêt de certaines huiles essentielles. Docteur Dre, quand tout ça ne suffit pas et que l'acné s'est installée et qu'il est sévère, il ou elle d'ailleurs, on dit un ou une acné.
Une acné.
On peut prescrire le fameux médicament qui ne porte plus d'ailleurs ce nom-là, mais le fameux Roaccutane, on connaît tous ce nom-là. Ça, c'est quand on a tout essayé. Pour qui c'est réellement indiqué ce lésitré? Alors allez-y, je vous laisse donner le nom, barbare.
Le nom de la molécule, c'est l'isotrétinoïne. Effectivement, le nom de marque Roaccutane n'existe plus depuis 20 ans, mais tout le monde le connaît encore sous ce nom-là. Il y a d'autres génériques qui ont pris sa place maintenant. En fait, l'isotrétinoïne est indiquée pour les acnés sévères qui ont résisté à tous les autres traitements. Et les autres traitements, justement, si l'isotrétinoïne, c'est un peu notre bazooka, on a plein d'autres armes avant qu'on peut utiliser, des traitements médicamenteux par voie locale, donc sous forme de crème, et par voie orale. On a parlé du zinc tout à l'heure. Le zinc en comprimé, c'est possible contre l'acné inflammatoire. Ça fonctionne aussi. Il y a des antibiotiques par voie orale aussi. Et il y a tous les traitements locaux qui contiennent principalement des rétinoïdes. Donc l'équivalent un peu du Roaccutane, de l'isotrétinoïne, mais par voie locale, c'est possible. Et on peut utiliser aussi du peroxyde de benzoyle. C'est un agent désinfectant qui est vraiment efficace sur les bactéries responsables de l'acné. Le seul problème, c'est qu'il décolore le linge avec lequel il est mis en contact.
Ah oui, mais je le connais celui-là.
Voilà,
vous avez du linge décoloré? Oui, avant d'accéder au Roaccutane, on dit, c'est ça? Ça marche bien, je peux vous le dire, le Roaccutane. Par contre, dites-moi, on est débarrassé de ces boutons pour toute la vie ou pas?
Alors, normalement, ça permet de diminuer suffisamment la sécrétion de sébum pour qu'une fois qu'on arrête le traitement, les boutons ne reviennent pas autant. Dans tous les cas, ça ne reviendra pas autant en quantité que ce qu'on avait avant le traitement. Mais il y a des gens qui ont une acné qui est tellement sévère, et puis une acné qui est tellement active, on va dire, résistante, qu'on peut avoir des récidives qui nécessitent de reprendre des traitements après. Grosso modo, 80% des gens n'ont pas besoin de reprendre de traitement après.
Et dites-moi, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. On a parfois des petits boutons là qui débarquent, sans parler d'acné hein, d'ailleurs. Comment on faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer par bien nettoyer sa peau, bien la démaquiller? Et si oui, quel est le mode d'emploi?
Le nettoyage, c'est très important.
Ça fait partie du traitement, on peut dire ça?
Ça fait partie du traitement. Effectivement, on ne peut pas mettre en place un traitement médicamenteux contre l'acné si on n'a pas une bonne routine d'abord de nettoyage pour la peau. Le nettoyage pour le matin, on peut utiliser soit un produit moussant, soit de l'eau micellaire. L'eau micellaire, je conseille toujours de la rincer après. C'est vrai que ce n'est pas marqué forcément sur les paquets.
Ça sèche, non?
En fait, l'eau micellaire, ça contient des tensioactifs, donc un peu comme du savon. On s'en rend compte, si on en met sur un coton et qu'on souffle à travers, ça va faire des bulles de savon. Donc, je conseille toujours de la rincer parce qu'il n'y a pas de raison de laisser les tensioactifs sur la peau toute la journée. Ou on peut utiliser des hydrolats, dont parlait Françoise tout à l'heure. Les hydrolats, ça aussi des propriétés qui sont intéressantes.
Hydrolat de quoi, matin, par exemple, pour nettoyer sa peau?
De rose, de fleur d'oranger, c'est les plus connus.
Et ça, ça ne se rince pas, pour le coup?
Non, du coup, au contraire.
C'est quoi un hydrolat? J'ai pas compris, moi.
C'est l'eau distillée qu'on récupère à la fin de la distillation et l'essentiel, en général, flotte dessus.
C'est les eaux parfumées, là.
Exactement.
Et donc, une fois qu'on a bien nettoyé sa peau à l'eau du robinet, est-ce qu'on rajoute l'hydrolat, c'est ça?
Oui, sinon, on peut la mettre sur un coton aussi. Je pense à l'hydrolat de titri, de romarin à verbena, qui sont intéressantes en cas d'acné. L'hydrolat plutôt de lavande officinale pour les personnes qui ont une acné inflammatoire ou des cicatrices. On en met sur un coton et puis on passe ce coton sur la peau directement.
On a dit qu'on donnait des tas d'astuces aujourd'hui dans cette émission, et y compris des choses qui ne sont pas médicamenteuses. Je crois que Dr Audrey, vous conseillez notamment de penser, pour ceux qui ne le feraient pas, à changer les têtes d'oreiller régulièrement.
Ah ouais.
Tous les combien, c'est important quand on a de l'acné, des
boutons
surtout?
Une fois par semaine, effectivement, parce que les bactéries présentes sur notre peau et les petits acariens vont bien aimer se développer dans notre tête d'oreiller à partir des peaux mortes.
Donc surtout, si vous avez des boutons, et surtout si vous avez envie d'être propre, changez toutes les semaines minimum d'oreiller.
Et se doucher le soir, c'est hyper important.
Se doucher tout le visage,
en fait. Pour l'hygiène, c'est mieux de se doucher, le corps, le visage, etc., le soir que le matin.
Pourquoi?
Parce qu'au cours de la journée, donc notre peau fabrique du sébum. Bon, ça, c'est valable 24 heures sur 24, mais sinon.
Oui, allez-y.
Oui, je disais, c'est mieux de se doucher le soir parce que au cours de la journée, notre peau sécrète du sébum, mais elle est aussi en contact avec toutes les poussières, les polluants, les pollens. Et donc finalement, quand on se douche le soir, on va se coucher plus propre et notre linge de lit va rester plus propre aussi. Alors que sinon, si on se douche le matin, finalement, on reste en contact 8 heures supplémentaires avec tous ces polluants, ces microbes, etc.
Bon, l'idéal, c'est matin et soir. Une petite douche, ça fait pas de mal. Moi, j'ai une collègue quand même qui m'a dit que lorsqu'on a un bouton, lorsqu'elle a un bouton, elle met du dentifrice dessus.
C'est pas moi. Hein.
Si, c'est vous.
Soi-disant,
c'est une recette de grand-mère où elle fait n'importe quoi.
Non, c'est pas une bonne idée, le dentifrice.
Ah bon?
Effectivement, c'est une recette de grand-mère qui est assez connue. Mais non, il n'y a rien de positif additif dans le dentifrice pour assainir un bouton.
Ah bon ?
Le dentifrice, ça contient du savon, en fait, souvent du sodium lauryl sulfate, qui n'est pas un bon produit spécialement sur les boutons. Ça contient du fluor, pareil, qui n'est pas bon pour les boutons non plus, donc aucun intérêt. Ça peut même être irritant par le menthol que ça contient.
Bon, ben, ne faites pas ça, quoi, évidemment. Ouais, ouais. Françoise Couëc-Marinier, alors on a parlé un tout petit peu des eaux florales, pour nous nettoyer la peau, l'assainir. Les eaux florales, contrairement aux huiles essentielles, je crois qu'on peut les utiliser vraiment sans modération, y compris quand on est enceinte. Parce que rappelons que les femmes enceintes, les huiles essentielles, attention. Hein.
Exactement. Alors on va quand même faire attention sur certaines eaux florales comme la cannelle qui est déjà contre-indiquée elle en huile essentielle chez la femme enceinte ou qui peut irriter la peau. On a eu certaines blogueuses qui ont fait des masques avec ça, elles se sont retrouvées toutes rouges, donc attention. Donc on va respecter les contre-indications, mais effectivement elles sont beaucoup plus douces puisqu'elles contiennent très peu de principes actifs, mais suffisamment pour la peau. C'est ce que je disais, il faut bien diluer. Et moi je rajouterais pour la thé d'oreiller, essayer d'avoir des thés d'oreiller en soie, c'est plus doux pour
la
peau
question.
Et pour les cheveux aussi.
C'est génial, moi j'ai testé ça, j'adore aussi maintenant.
Ah, vous trouvez
mais j'ai même l'impression que les crèmes ou les produits cosmétiques que je mets la nuit, pénètrent mieux.
Qu'est-ce que vous en pensez, docteur, vous, des oreillers en soie pour la peau?
J'ai pas d'études comparatives, oreiller en soie versus oreiller coton ou autre matière, mais effectivement c'est assez doux et c'est un matériau naturel par rapport au polyester qui va plutôt garder l'humidité.
Françoise, on voit aussi de plus en plus de crèmes ou de produits cosmétiques avec des huiles essentielles dans la compo. Ça peut avoir quoi comme effet? Ça peut redonner de l'éclat ou pas ?
Ah oui, on a plein de brevets, ça va redonner de l'éclat. Donc on va agir un petit peu comme les alpha-hydroxyacides de fruits qui étaient cités tout à l'heure. Donc ça va aussi détacher lorsqu'on va l'utiliser le soir. On va aussi agir sur l'élastase pour limiter justement cette enzyme qui coupe les fibres d'élastine. On va stimuler la fabrication de collagène. Donc on a de plus en plus d'huiles essentielles, l'hélichryse italienne par exemple, qui est très très connue. Et puis pour les jeunes justement aussi. Et on va les associer souvent ces cosmétiques avec des huiles végétales ou des cires liquides. On parlait de sébum tout à l'heure. On a le jojoba qui est une cire liquide qui a un effet sébum-like. Donc si on en met le matin, eh bien on aura justement une diminution de la production de sébum qui sera aussi très intéressante. Et ça satine la peau. Donc forcément on a l'impression d'avoir une peau de pêche.
Génial. Docteur Dré, on voit qu'il y a un boom du rétinol dans les crèmes. Benjamin Lévesque nous en parlait dans sa chronique beauté de lundi. Je vous invite à aller la réécouter. Mais est-ce que c'est le même ingrédient, ce rétinol, que dans les médicaments anti-acné dont vous avez parlé?
C'est un dérivé. La vitamine A, c'est une grande famille en fait, de molécules. Ça contient la forme alcoolique, c'est le rétinol. Ça contient la forme acide, l'acide rétinoïque. Et les formes acides, c'est ce qu'on va utiliser plus dans les médicaments contre l'acné.
Bon, on aurait envie de dire encore beaucoup de choses, mais cet entretien touche à sa fin. Merci à toutes les deux. Je pense qu'on a fait le plein des solutions pour faire la paix avec notre peau, en finir avec les boutons. Je signale une dernière fois vos livres respectifs. Dermatodré, c'est celui-ci, Faire la paix avec sa peau, paru chez Larousse, et le vôtre, Françoise Couëc-Marinier, Se soigner avec les hydrolats, aux éditions Terre Vivante. Merci.
Mélanie, maintenant, on va passer à notre séquence entourée de nos bienfaiteurs du jour. Enfin, première bienfaitrice, ce sera Sophie Braffman. Elle a repéré des applis très pratiques puisqu'elles facilitent la vie des familles. Donc restez bien à l'écoute. Et puis avec Philippine Darblay, on va tester dans un instant le nouveau kebab. C'est le sandwich tunisien. Ça ne donne pas de boutons a priori.
Non, c'est bon.
Je sens qu'on va se régaler dans quelques minutes. Vous êtes bien sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, dans Bienfait pour vous. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi. Nous sommes à présent donc avec notre duo de bienfaitrices ce jeudi. Je me tourne d'abord vers vous, Philippine Darblay. Bonjour.
Bonjour à toutes les deux.
Elle est déjà en train de découper. Elle est d'humeur gourmande. Et surtout, vous allez nous expliquer que le kebab, c'est bon. Hein, mais il y a peut-être encore mieux sur le marché aujourd'hui. C'est quoi là ce que vous êtes en train
Alors,
de découper?
Alors là, je suis en train de découper des casse-croûtes tunisiens revisités. Et effectivement, c'est hyper gourmand. Vous allez voir.
J'ai hâte de déguster tout ça et découvrir ce qu'il contient. Tiens, ce fameux sandwich. Bon, à part le fait que j'ai faim, heureusement, je vais me concentrer sur autre chose, sur vous, Sophie Braffman. On va commencer par du pratique, du serviciel, comme on dit.
Je vais essayer de rester concentrée parce que ça sent très bon dans ce studio. Une petite odeur de thon qui se dégage, c'est délicieux. Alors, je vais vous parler des applications qui vont vous faire du bien en famille. Ça vous parle ou pas?
Oui, on en a besoin.
Ouais. Alors, je ne pense pas à TikTok, forcément, non, parce que quand on pense famille, on pense à TikTok. Sachez tout de même que ça a été l'application la plus téléchargée en 2021, donc c'est quand même une application extrêmement chargée, et notamment en famille. Et c'est vrai qu'on peut parfois se laisser happer par des vidéos d'unboxing. Vous savez, ces déballages de shopping hein, par des apprentis influenceuses très courtement vêtues, des défis culinaires sous picole ou plus récemment la mode Balmoral qui a fait son grand tour. Non, moi je vais vous parler d'applications très utiles dans votre quotidien. Que vous soyez parents solo, famille traditionnelle ou recomposée, ça va vous concerner. Alors on commence avec une application qui s'appelle Shared, donc S-H-A-R-E-D comme partagé, et qui a été créée par Anthony Amouyal il y a un an, en septembre 2021.
L'idée en fait c'est d'aider les parents en leur offrant une application tout en un qui leur permet de gérer ce qui concerne l'organisation avec un agenda partagé, puis aussi les listes de courses, les to-do lists, la gestion du budget, partager aussi des informations comme des documents, des numéros de téléphone, les adresses du médecin, des activités extrascolaires, etc. Et donc l'idée c'est de leur simplifier la vie en leur permettant de partager les informations pour que tout le monde soit au bon niveau d'information tout le temps.
Alors, des informations qui vont d'autant plus utiles hein, lorsqu'on est séparé, parce qu'avec 250 000 séparations en France par an, ça fait du monde qui a besoin de s'organiser. Et je pense notamment à la gestion des finances quand on est une famille en garde alternée, ce qui est plus fréquent, parce que vous allez avoir des petites discussions toujours autour de « Ah, j'ai payé la cantine, oui, mais moi j'ai payé les fournitures scolaires, hein, c'est un peu désagréable. » Et bien, grâce à l'application qui résonne évidemment sans affect, mais avec calcul, chacun entre ses dépenses et l'application fait la balance, finit les mauvaises surprises et le compte est bon. Ça vous rappelle quelque chose, ça hein
oh bah, j'adore les chiffres et les lettres.
Moi aussi, j'aime beaucoup ce genre d'émission du dimanche.
Je suis meilleure en lettres qu'en chiffres.
Oui, moi aussi, en chiffres, j'étais mauvaise. D'où l'intérêt de l'application, comme ça, on ne se fait pas avoir. Alors, bien sûr, et on a ça, et on a aussi le problème des plannings de garde qu'on peut avoir, l'enfer, qu'on peut avoir besoin d'aménager ou de changer à des moments donnés. C'est important.
C'est important pour eux de pouvoir gérer les plannings de garde, notamment. Puisque à travers l'agenda, on va pouvoir visualiser le planning, on va pouvoir aussi à travers l'application gérer les échanges de garde, on va pouvoir conserver un historique, pour certains c'est important, et puis surtout on va aussi pouvoir partager la visibilité avec des tiers. Ça peut être un nouveau conjoint, ça peut être les grands-parents ou une nounou. Puis chez les parents non séparés, pour le coup, vous avez aussi la possibilité de rendre visible tout le besoin d'organisation du quotidien et donc aller vers une meilleure répartition des tâches pour le quotidien.
Je trouve ça génial, c'est hyper pratique cette appli.
C'est hyper pratique et quand il parle de la répartition des tâches, là je le remercie Anthony, merci beaucoup hein, pour la fameuse charge mentale des femmes.
Mais c'est extraordinaire.
Voilà, monsieur ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant qu'il n'y avait plus de lessive.
Et puis on n'est pas obligé d'appeler son ex pour lui dire tu me le prends vendredi, machin. On ne se parle plus comme ça, c'est génial.
Ou alors quand on se parle, c'est que pour des échanges sympas. Voilà. Mais en tout cas qui n'ont rien à voir avec l'organisation au quotidien et la logistique. Donc ça c'est chouette.
Ça c'est malin, mais si par exemple on ne veut pas tout partager avec les grands-parents ou la nounou, là, on fait comment ?
Alors justement, c'est une bonne question parce qu'effectivement, les informations financières, on n'a pas forcément envie de les divulguer à tout le monde, hein, ça reste personnel. Alors, c'est pour ça que l'application est très bien faite. Vous avez un premier cercle, celui des parents, donc les deux parents et les enfants. Et ensuite, dans le deuxième cercle, vous allez pouvoir inviter un tiers, nounou, grands-parents, beaux-parents, en fait, qui vous voulez. Et comme ça, eux, vous allez leur garder les jolies photos de vos enfants, hein, comme ça, ils vont être ravis. Mais par contre, les informations financières, vous allez les garder pour vous. Et puisqu'on parlait de cette fameuse charge mentale féminine, alors j'ai une autre application qui va vous intéresser aussi et qui est très pratique et haute en couleur, ça s'appelle Pop Moms. Alors P-O-P-M-O-M-S hein, et Pop c'est pour papa. Ah. Même si l'habillage et le graphisme de l'application, vous allez voir, est très pop parce que 5% des inscrits sont quand même des hommes. Hein. Ah, c'est bien, on est contente. Alors c'est un réseau social à destination des familles, gratuit et solidaire, qui a été fondé par une maman de deux enfants, Carmen Kervela, qui aujourd'hui a des enfants qui sont grands, mais cette dernière reste très engagée dans l'entraide entre parents. Et l'idée de l'application, c'est vraiment de se rendre service entre parents. Ça fonctionne exactement comme un réseau social. Vous allez vous inscrire, vous allez donner vos informations, vous allez mettre votre photo et vous allez pouvoir, par exemple, troquer des bons services. Alors, troquer des heures de garde, imaginez, je vais me faire épiler. C'est un peu court, à moins d'être très poilu, pour convoquer une nounou. Donc, on peut laisser ses enfants à une voisine, moyennant quoi, cette voisine, vous allez lui garder ses enfants quand elle va faire son footing le dimanche matin. Donc, c'est vraiment
une histoire,
c'est hyper pratique.
C'est solidaire, quoi.
Voilà, solidaire, complètement, géolocalisé, parce que ça va être dans votre quartier. Vous êtes une future maman et vous cherchez d'autres parents pour garder, pour faire une garde partagée. Ou alors, parce que vous avez avait un souci de covoiturage pour emmener les enfants à l'école
danse,
le matin.
Foot,
exactement,
quoi,
les multiples activités du mercredi. Du coup, c'est vraiment très simple l'application. Côté inscription, c'est très ergonomique. Elle est ultra bien faite et vous allez être mis en relation avec des parents qui ont le même besoin dans votre quartier.
Et ça, c'est Pop Mom, hein, c'est ça ?
Pop Moms.
Au pluriel.
Pop Moms, exactement.
Et,
pluriel.
Et Pop Moms, ça fonctionne dans toute la France ?
Alors, ça fonctionne dans toute la France. Bien sûr, il y a des zones qui sont beaucoup plus denses que d'autres. Donc, forcément, dans les grandes villes avec les agglomérations, vous aurez plus de chances de trouver un voisin avec des besoins similaires. Mais avec la mode des néo-ruraux, il est possible que vous puissiez faire des trocs, notamment s'arranger pour un atelier pain bio en famille contre l'entretien des toilettes sèches.
Non, vous ne faites pas l'échange.
Je
préfère le footing contre l'épilation.
Ça, ça vous plaît plus ou séance de coiffeur contre une sortie salle de sport.
Ça, c'est bien.
C'est possible.
Sèches, on ne va pas s'en occuper tout de suite.
Merci Sophie Braffman. On sort de ce studio bientôt et on va télécharger tout ça à l'heure du déjeuner approche. J'entends déjà le ventre de Julia Figaro.
Ah oui, j'en peux plus, j'ai
voilà, ça tombe bien puisqu'on va parler street food maintenant avec Philippine et donc on va parler de l'engouement actuel pour le casse-croûte tunisien, un sandwich qui a du caractère et que les échoppes et les boulangeries en France s'amusent à revisiter.
Alors oui, effectivement, d'ailleurs, merci de l'avoir rappelé, c'est vrai que ça sent bon dans le studio. À chaque fois, je pense à Romain qui passe après nous. Le sandwich tunisien, c'est quoi ? En fait, c'est un sandwich assez relevé qui est à base de thon et de légumes. Parfois, il y a même de l'œuf. Et c'est souvent dans ce qu'on appelle un pain italien. Donc, c'est un pain assez costaud avec une grosse croûte. Et pour Annabelle Chakmes, qui est journaliste et auteure, ce sandwich, c'est la goulette à Tunis. C'est le vent, la plage, mais ce sont surtout des bouchées qu'on n'oublie pas.
En fait, c'est un mix de saveurs hyper percutantes, ce sandwich. Citron confit, harissa qui relève le tout. L'assaisonnement est très différent de ce qu'on a l'habitude dans un sandwich. Et surtout, l'objet est hyper sexy, il faut dire la vérité. C'est beau, c'est très gourmand visuellement. On l'aime parce qu'il a toujours été là, parce qu'il est archi réconfortant dans la plus grande simplicité. C'est un doudou, ce sandwich.
Ouais, c'est vrai que ça fait envie. Et d'ailleurs, pour Irman Abdoulakim, qui est lui critique culinaire spécialisé dans les sandwichs, oui, il a quand même de la chance, eh bien, chaque croc est une expérience différente.
Pour moi, ce sandwich, il est un peu unique, original et surtout adaptable à pas mal de moments. C'est-à-dire que c'est un sandwich qu'on peut manger quasi au petit déjeuner, j'ai envie de dire. Mais non, parce qu'il y a un côté vraiment frais dedans et salade. Donc en même temps, on a l'impression de manger quelque chose d'assez healthy au final. Et c'est très digeste. On a le thon est hyper agréable, les capres dedans. Moi, j'adore. La harissa, c'est relevé. Et en même temps, il y a tellement de variantes du casse-croûte tunisien qu'à chaque fois, on en découvre à nouveau. Même certaines fois, au même endroit, en fonction du fait qu'ils mettent un peu plus de thon, un peu plus de capre, etc., même si en général, ils sont assez justes, parce que c'est des mouvements qu'ils répètent tout le temps, on n'a jamais l'impression de manger le même deux fois.
Alors, pour info, il aurait été inventé par un certain Bannon, donc un juif de l'île de Djerba. Et d'ailleurs, pour info aussi, la culture juive tunisienne veut que l'on célèbre la fin de la fête de Pessah avec ce sandwich, c'est dire la symbolique.
Mais pourquoi il plaît autant en ce moment, ce sandwich ? Pourquoi il a la cote ?
Eh bien, alors, évidemment, il a toujours plu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, encore plus, il est au cœur des plus grandes tendances, en fait. Hein, la street food qui explose. Il y a un engouement pour la cuisine méditerranéenne familiale plutôt simple. Et pour Emmanuel Murat, qui est cofondateur de la boulangerie Bab Kazana à Paris, eh bien c'est une excellente alternative de sandwich sans viande. C'est vrai, on n'y pense pas. Ça pourrait, par exemple, remplacer le thon crudité mayo un peu revu.
Et Philippine, vous disiez que pas mal de lieux le revisitent, ce sandwich. Alors, dites-nous en plus.
Eh bien oui, alors évidemment, certains s'amusent à le faire à leur sauce, si on peut dire. Hein. Par exemple, les cofondateurs de Bab Kazana, dont on vient de parler, avaient envie d'adapter cet héritage culturel et familial en le proposant dans un pain beaucoup plus moelleux. Je vais vous le faire goûter après.
Ah bah oui,
on n'en peut plus, là.
Avec des ingrédients et un assaisonnement qui sont vraiment à leur pâte, en fait, à leur image. Et on écoute Emmanuel Murat.
Alors, notre casse-croûte tunisien, il est fait avec une base de challah, tressée d'une autre manière par rapport à d'autres sandwichs. C'était aussi donner une identité à part dans nos sandwichs. Dedans, il y a du thon tunisien, Sidi Daoud, de la pomme de terre, des olives kalamata, œufs durs. Et après, au lieu de mettre de l'harissa et de l'huile d'olive, on fait une sauce vierge à l'harissa et au citron belly. Alors, si j'avais un souvenir par rapport au sandwich tunisien, c'est mes grands-parents et on regardait mon grand-père et ma grand-mère travailler en équipe et préparer les sandwichs un à un pour chaque enfant et petits-enfants. Ça, c'est lié à mes grands-parents, ce sandwich.
C'est une madeleine de Proust.
La version piquante, c'est délicieuse.
Hein. C'est tellement bon. Par contre, c'est pas si sexy quand on le mange quand même. Il y en a partout.
C'est bien, on est à la radio, on ne voit pas au moins.
Alors, petite précision, parce que Emmanuel parle de challah. Le challah, c'est un pain qui se rapproche dans la texture assez de la brioche. Sauf que le lait et le beurre sont remplacés par l'huile et l'eau. Après, il parle aussi d'olives kalamata. C'est des olives violettes. Vous savez, elles sont très belles, elles sont très douces. Et le citron Beldi, enfin. En fait, c'est une variété qui s'appelle le citron bergamote, qui est légèrement amer et qui est confit dans le sel.
Ah voilà. Vous savez, Romain Desarbres est arrivé et je le vois avec ses yeux gourmands. Il a envie de goûter le sandwich tunisien.
Ça sent assez bon. Oui.
Alors, et c'est très bon.
Et si vous voulez
c'est
faire.
C'est léger ou pas?
Pas vraiment. Pas vrai. Si vous voulez faire un sandwich tunisien chez vous, Romain, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour le préparer à la maison, Philippe?
Ah oui, tout à fait. Bah, évidemment, il faut que le thon soit de bonne qualité, pas trop sec. Il faut toujours amener des touches d'acidité et d'amertume. Ça peut être le fameux citron Beldi qu'on trouve d'ailleurs dans le commerce. Des capres, des pickles, donc c'est des légumes vinaigrés. On peut aussi, pour une version revisitée, opter pour un pain moelleux comme celui-ci qui se rapproche de la brioche.
Et pour ceux qui ont envie de le goûter chez les pros, c'est quoi vos adresses?
Bon, évidemment, il y a des tonnes d'endroits, des tonnes de coins de quartier où le tester. D'ailleurs, je suis sûre que vous avez plein de suggestions. Bon, évidemment, à Paris, il y a des institutions. Il y a Bob de Tunis, il y a René Gabin. Dans les plus contemporains, on va dire, il y a Penny Lane ou Benty. À Marseille, il faut absolument passer à la Maison Journaux. Et à Lyon, il faut plutôt se balader du côté de la place Gabriel Péri et de la rue Paul Bert.
Eh bien, c'est bien noté. Écoutez, c'était délicieux. Merci de nous avoir mis l'eau à la bouche. Il est quasiment midi. C'est d'actualité. C'est noté. Merci pour cette découverte gourmande. Voilà. J'espère que vous avez eu votre compte de bienfaits. Promis, on va en trouver d'autres pour vous demain. On sera de retour, Mélanie, à 11h et il y aura quoi au programme?
Demain, on va bien rigoler, je pense. En tout cas, la rigolade sera au cœur de notre discussion car rire est bon pour tout, pour notre morale, notre santé, notre cœur, notre cerveau, nos liens avec les autres. Et on verra aussi que faire rire, même si c'est pas aussi facile que ça en a l'air, eh bien ça peut s'apprendre. On vous donnera de bonnes astuces pour y parvenir.
À présent, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Quel est le programme?
On va parler dans Europe Midi, notamment des éoliennes en mer. Emmanuel Macron inaugure un champ d'éoliennes composé de 80 engins installés au large de Saint-Nazaire et qui polluent la vue, évidemment. Les riverains ne sont pas contents. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On va en parler dans Europe Midi.
Merci Romain, à tout de suite.
À tout de suite.